Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
J'espère que vous avez passé une excellente semaine depuis notre...
On l'espère.
Dernier rendez-vous.
Oui. Et Simon, pour commencer l'émission, le mot du jour...
Oui, quel est-il?
Essentiel.
Essentiel. Là, quand tu m'arrives avec des affaires comme ça, à brûle pour point comme ça, il faut que j'y réfléchisse quelques secondes.
Oui, vas-y.
On n'a pas besoin de sortir les huiles essentielles, les petites bougies, puis les trucs du genre l'encens pour mettre de l'ambiance dans notre studio.
Oh! OK, celle-là, tu l'as tirée là, de tous les bords.
Il n'y a plus de place à en mettre nulle part.
Non, tu peux pas.
Alors, voilà, essentiel.
OK, alors, c'est bon.
Alors,
non, mais c'est bon.
Du moment où on vous retrouve, mesdames, messieurs, pour
c'est
l'émission...
C'est ça qui est l'essentiel.
C'est ça qui est l'essentiel. Donc, pas d'huile essentielle, de petites bougies, de trucs du genre.
C'est ça. J'aime bien.
Fait que j'aime ça t'a mis de bonne humeur sur mon affaire d'huile essentielle.
Oui, oui, non, ça m'a mis de bonne humeur. Alors, on a une émission... vraiment rempli aujourd'hui.
Bien rempli.
Oui, on va se parler de homard, entre autres.
Oui, tu sais, il y a
des bites qu'on aime tous les deux.
Bon, moi, oui, j'aime le homard, mais tu sais, j'en fais pas de maladie. Je sais que toi, t'es pas loin de là, là. C'est quasiment une obsession. Mais il y a des affaires qui sont belles à voir bébé, tu sais.
Oui.
Un petit bébé chat, un petit bébé chien, c'est cute.
Oui, c'est cute, hein.
Un bébé homard, c'est moins cute, par exemple.
Ben. Oui, OK.
Mais quand même...
Mais c'est quand même cute.
Ben, ça dépend de ce que c'est ta définition de la cutitude, on va dire, Mandelega. Alors, tantôt, on va parler de bébé homard.
De bébé homard, oui.
Ouais.
Et c'est super intéressant.
C'est super intéressant. Vraiment. C'est dans la deuxième portion, en fait, le deuxième quart d'heure de l'émission tantôt.
Oui. Et un petit peu plus tard, on va se parler plus d'informatique.
D'informatique, mais pas de n'importe laquelle.
Non.
L'informatique libre.
L'informatique libre.
Libre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en
hiver?
Oui,
oui, c'est ça, exactement, oui.
Alors,
j'aimerais ça que tu m'en parles.
C'est après la pause de la demi de l'émission.
Ah, OK. Bon,
OK. On va voir une entrevue. Donc, c'est deux entrevues, ce qu'on va avoir.
Les deux entrevues d'aujourd'hui.
On vous réserve des surprises.
Oh, et n'oubliez pas...
N'oubliez pas.
Vers la fin de l'émission.
Ah, le quiz.
Le quiz, cette semaine.
Tu veux même pas me donner...
Non, pas en tout. Pas en tout. OK. T'auras beau avoir étudié... Tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, non.
OK, ben écoute donc. Mais c'est pas fait pour les gens qui nous écoutent, ça. Ils aimeraient savoir, eux autres, pour se préparer un petit peu, parce que je suis pas seul à jouer. Les gens jouent à la maison aussi.
Non. Si je suis pour t'apprendre, ben on va prendre tout le monde en même temps.
OK, parfait. Pas de problème.
Tu nous parles de quoi, toi?
Moi, je vais vous parler d'abord, avant ton sujet. C'est quoi, toi, tu vas nous parler tantôt?
Ben moi, je vais te parler de WordPad.
Ah oui, OK.
Oui, malheureusement. Et j'ai eu une petite conversation avec un ami.
Malheureusement? C'est qui, WordPad?
On s'en parle tantôt.
OK, OK.
Vole pas le punch.
OK. Et moi, je veux vous parler des travailleurs. Ils sont rendus où, les travailleurs?
On parle tellement de pénurie de main-d'œuvre, mais ils sont où? Pourtant, avant la pandémie, il y en avait. Il y avait une pénurie un peu, mais pas tant que ça, là.
Ben, tu sais, quand on regarde la quantité d'offres d'emploi, je pense qu'il n'y a pas un dépanneur, il n'y a pas un restaurant où on entre, qu'il n'y a pas à quelque part dans le coin là, une affiche, on recherche des cuisiniers, on recherche des vendeurs, des trucs du genre. Il y en a, c'est une affaire effrayante. Puis,
et tu te promènes sur les routes, Simon, tu sais, les grosses pancartes, nous embauchons, là. Il y en a partout.
Colin, c'est rendu qu'on voit à la télévision, j'avais jamais vu ça, des publicités de McDonald's puis de Tim Hortons et compagnie qui s'annonce à la télévision en disant « viens, on fait une journée d'embauche », des trucs du genre.
J'avais jamais vu ça.
Alors là, on s'est demandé, ils sont rendus où, les travailleurs? Il y a un rapport de la Banque mondiale qui nous le dit, où ils sont rendus, les travailleurs.
Ils sont où?
En fait, une partie des travailleurs, à tout le moins. 400 millions. Ça, c'est le nombre de travailleurs qu'on dénombrerait maintenant à travers le monde qui sont, tenez-vous bien, payés à la tâche pour accomplir du travail en ligne.
Ah oui?
400 millions. C'est ça qui est rendu là. Il y a beaucoup de ces travailleurs-là qui, jadis, se levaient,
Ils
embarquaient les culottes,
embarquaient
dans l'autobus ou encore dans la voiture, s'en allaient au travail, et maintenant, ils ne font plus ça. Ils font strictement des contrats à la pièce.
À la pièce.
Ouais, 400
oui.
millions, ouais. Rien de moins. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Tu connais le Uber, ouais, le taxi, ouais. Uber, là. Je veux dire, tu prends ton auto puis tu conduis du monde puis t'es payé en contrepartie.
C'est ça.
Ben, c'est ça. C'est ça.
C'est le même principe, mais sur Internet.
C'est, ben, voilà. Et cette ubérisation du travail, c'est devenu quand même suffisamment préoccupant pour qu'on tire une petite sonnette d'alarme actuellement et qu'on avertisse que ce n'est que la pointe de l'iceberg.
Ah oui, hein.
Ça commence et ça s'en va de plus en plus vers là.
Parce que j'en ai vu beaucoup d'offres d'emploi pour aller sur les sites Internet, participer des acheteurs mystères, des choses comme ça, là.
Et c'est ce genre de job-là, effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'ils font, là, précisément?
Oui.
Ben, ils font tout un paquet de choses.
Okay.
Ils sont, par exemple, designers graphiques. Ils sont rédacteurs de contenu, développeurs web, analystes de données. Ça, l'analyse de données ou la prise de données, ça, il y en a de plus en plus. Des traducteurs, des modérateurs de réseaux sociaux. Mais quelles sont leurs conditions? Ben, la plupart du temps, on l'a dit tantôt, ils sont payés à la tâche. Tu traduis tant de pages, tu vas avoir tant d'argent, tu as fini ton contrat, on te rappellera ou on te renverra un courriel dans le temps comme dans le temps. Alors c'est un petit peu ça. Puis le problème avec ça, c'est qu'ils travaillent pour la plupart à temps partiel et leurs conditions d'emploi sont assez précaires. Et c'est là surtout où la Banque mondiale tire un peu la sonnette d'alarme.
Okay.
C'est que ça aura permis à des gens qui n'étaient pas en mesure d'entrer sur le marché du travail, par exemple des gens handicapés, des femmes immigrantes, par exemple, ça leur a permis à ces personnes-là d'avoir justement un emploi, cette ubérisation qui fait que elles accomplissent des tâches à la pièce comme ça. Sauf que ce que ça donne, c'est que ça donne des conditions qui sont un petit peu précaires parce que ils ont pas de plan de pension.
Ben, c'est exactement ça.
Ils ont pas d'assurance en cas, par exemple, de maladie.
Des
trucs du genre.
Oui.
Et, ça les rend un petit peu de plus en plus en situation de précarité. C'est qu'on est en train de changer 4,30 sous pour une pièce. C'est qu'on prend du monde qui était généralement dans des mauvaises conditions, par exemple, soit sur l'aide sociale ou encore sur les programmes sociaux, les trucs du genre. Oui, ces gens-là sont maintenant en mesure d'accomplir certaines tâches, tu sais, je veux dire, tant mieux pour eux autres.
Ben oui.
C'est valorisant d'avoir une job, là, de faire de la traduction que t'aurais pas fait autrement si t'avais pas été capable de sortir de chez vous. Sauf que le problème maintenant, c'est que, effectivement, la précarité de ces emplois-là est telle que on ameute les dirigeants de la planète, on ameute les entreprises et tout ça, on dit, c'est correct, là, mais faites un petit peu attention parce que on va avoir des problèmes peut-être tantôt.
Ben c'est parce que là, ces gens-là, ils ont aucun avantage social.
C'est 0.0.
Zéro.
Comme ils effectuent du travail plus souvent qu'autrement, comme on le disait, à la tâche, c'est un peu précaire.
Mm-hmm.
C'est difficile aussi de dire, ben je vais me prendre une partie de mon argent puis je vais me faire un REER.
C'est ça.
Ou je vais me prendre une assurance dentaire, une assurance pour les yeux puis en cas d'accident professionnel.
Mais c'est parce que tu sais pas la semaine prochaine si tu vas en avoir un autre contrat.
Voilà. Alors donc ils vivent d'une paye à l'autre plus souvent qu'autrement.
Ben oui.
Ça fait que ça précarise un petit peu. Oui, ça a un bon côté.
Oui.
Parce que effectivement, c'est le fun d'avoir une job puis d'avoir de l'argent qui rentre, mais de l'autre côté, ben
quand il y a rien qui vient avec.
Exactement.
Oui.
Peut contenir des infos.
Je sais que toi tu te sers de WordPad.
Oui.
Dans tes tâches presque quotidiennes.
Ben peut-être pas quotidienne, mais très régulièrement.
Oui,
là, quand par exemple, je travaille dans le code de site web, des trucs du genre. Là,
WordPad va finalement être retiré des futures versions de Windows. Ouais, ils veulent plus nécessairement s'en occuper. Et ça faisait quand même un petit bout là qu'il n'y avait pas eu des bonnes mises à jour faites sur WordPad.
Tu me niaises?
Bien sûr que non.
Ah ouais.
Juste te donner une petite idée, WordPad a été déployé la première fois dans une version de Windows.
Ça doit être dans les années 90, là.
Elle était pas loin. Windows 95.
Oh, OK.
Ouais, Windows 95, c'était la première version où on voyait WordPad.
Hey, ça fait quasiment 30 ans, pense-y.
Oui, c'est 28 ans, là.
Wow.
Et bien entendu, WordPad, au début, était pas très fonctionnel.
Ben, c'était plus un Notepad que d'autres choses.
C'était plus un Notepad, mais il a évolué avec le temps, puis il pouvait lire à la fin. Là. Aujourd'hui, il peut lire des documents DocX, des ODT,
oui.
Puis des RTF, bien sûr. Mais dans le temps, quand ça a été lancé en Windows avec Windows 95, souviens-toi, quel logiciel on utilisait pour faire du traitement de texte, souviens-tu?
Ah, c'était, comment ça s'appelle?
Une compagnie canadienne?
Oui,
là?
Oui, oui, attends un peu, ils sont ici à Ottawa.
Oui,
en plus de ça, là,
c'était Corel.
Corel, oui.
Oui, WordPerfect.
Oui. WordPerfect.
WordPerfect dominait le marché.
Ça, il y avait CorelDRAW et compagnie.
Là, eux autres, ils dominaient le marché. Mais quand est arrivé Office... De Microsoft, ben là, ils ont tranquillement mangé dans le marché à WordPerfect tellement que, bon, WordPerfect est disparu.
Hey, j'ai-tu dit CorelDRAW à la place de oui. CorelDRAW? Ou
oui, oui tu as dit CorelDRAW.
DRAW. DRAW comme des
DRAW comme dans D-R-A-P.
Oui, c'est ça.
D-R-A-P.
Okay. Mais ils n'étaient pas dans les lits, eux autres.
Non. Mais pour ceux qui utilisent WordPad puis qui veulent... ça va être encore là, là.
OK,
okay mais c'est juste dans les futurs... comme Windows 12.
Ils rentreront pas dedans.
En 2024, qui devrait être lancé en 2024, Windows 12. Ouais, c'est ça, il sera plus dedans. Mais pour ceux qui ont Windows 11, ben, il n'y a pas de problème, il va être encore là, là. Et de toute façon, il existe un paquet de logiciels semblables sur Internet.
Ben oui.
Qui coûtent rien.
Ben oui.
Puis ça, on va vous en parler un petit peu plus tard.
OK.
OK. Juste rapidement, là, j'ai eu une conversation avec mon ami de caractère AI.
OK, oui.
Tu sais, là, celui
oui, ton intelligence artificielle.
Mon intelligence artificielle qui... Et là, je suis allé voir un de mes bons amis. Ça faisait longtemps que je lui avais pas parlé. Paul McCartney.
Ah oui, ben oui, Paul.
Ben oui, Paul. Fait que
va bien?
Oui, il va bien. Puis j'ai demandé, j'ai dit, Paul, j'ai dit, toi, t'écoutes-tu encore la radio autant que tu l'écoutais? Il dit, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la radio.
Ben,
il dit, plus jeune, quand j'étais à Liverpool, je demeurais avec mes parents, j'écoutais la radio avec ma mère.
OK.
Très jeune âge. Et dernièrement, il a collaboré avec la BBC One pour une émission spéciale. Il dit, et ça, c'est le bout intéressant de sa réponse, la radio est un des médias les plus puissants pour rassembler les gens, et il l'a toujours été.
Ah, que c'est bien dit.
Ah!
C'est pas pour rien qu'il était, c'est pas pour rien qu'il était anobli puis que c'est ben, Sir Paul, hein.
Ben, il y a une raison, là.
Tu sais, je veux dire, quand tu penses d'avoir
une raison,
même, là, je
veux ben dire, oui. Ah, puis on a fini la conversation avec, j'ai posé la question, je dis, est-ce que tu penses que Simon, et François font une bonne job avec, l'émission peut contenir des infos?
Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il a dit oui.
Il dit absolument. Il dit, je crois qu'ils forment une merveilleuse paire et je suis un grand fan et les écoute lorsque je voyage au Canada.
OK.
Ils sont charmants dans leur animation. Et ils sont très informatifs.
Bon, ben alors, c'est Sir Paul qui ouais. nous l'aura dit.
Fait que merci
via,
beaucoup,
via character Paul. AI,
oui.
Hein?
Oui, 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 via character AI.
Non, vous n'avez pas prêté à M. McCartney des propos, des choses qu'il n'a pas
dit. Non, mais je sais qu'il nous écoute, là.
Oh, oui, c'est
oh,
ça.
Oui, ben,
c'est en mon fort intérieur.
Ben oui, c'est ça. Y a-tu quelqu'un qui nous écoute pas?
Probablement 3-4.
Ouais, c'est ça. On va pas les nommer. On va pas les nommer. On va pas leur faire honte, là, quand même.
On marque un petit temps d'arrêt. On se fait une petite pause.
Oui.
Puis on vient dans un instant. On vous parle de bébé Omar.
Restez en contact avec Peut contenir des infos.
Peut contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Peut contenir des infos.
Pour ceux et celles parmi vous qui êtes des fidèles de l'émission Peut contenir des infos
mm-hmm.
et qui nous écoutiez la saison dernière,
oui.
vous vous souviendrez peut-être qu'on avait fait une entrevue où on avait parlé de la pêche au homard.
Oui, avec Angus Lefort, qui est le directeur de l'autorité portuaire de Chétiquan en Nouvelle-Écosse.
Oui, c'était très intéressant.
Oui, absolument.
Et pour qu'il y ait de la pêche au homard, encore faut-il qu'il y ait, comment je dirais ça, de la préservation des ressources, ou enfin une ressource à pêcher.
Oui. Mm-hmm. Et ça adonne, Simon, qu'à
oui.
côté du gros homard à Chédiac.
Voilà où je voulais aller.
Au Nouveau-Brunswick. Et pas tellement loin de notre station CJSE-FM, il y a le centre Homarus.
Oui.
Et ça adonne ça donne juste comme ça oui. que tu as eu la chance d'aller visiter le centre cet été.
Absolument. Je veux pas que l'émission devienne une infopub ou une blog, là.
Oui, mais c'est pas un publireportage.
Mais j'ai trouvé ça très intéressant, franchement, oui. là, comme mm-hmm. endroit, l'idée derrière ce centre Omarus et la raison d'être de cette organisation-là. Et je me suis dit, pourquoi pas en discuter?
Ça serait le fun.
Hein? Oui. Ça irait de pair, justement, avec cette entrevue qu'on a fait le printemps dernier. Et pour nous en parler, on a avec nous au téléphone aujourd'hui la directrice adjointe du Centre Omarus à Chédiac, Madame Maryse Cousineau est avec nous au téléphone. Bonjour, Madame Cousineau.
Bon matin.
Madame Cousineau, dites-moi d'abord, le Centre Omarus, pourquoi? C'est quoi la raison derrière le Centre Omarus et quelle est sa mission, entre autres choses?
Alors, pour expliquer le Centre Omarus, je dois commencer avec un petit peu le début. On fait partie de l'Union des pêcheurs des Maritimes, qui est une association de pêcheurs, 1300 pêcheurs aux Maritimes. Et sous l'Union des pêcheurs des Maritimes, nous avons la branche scientifique qui est Omarus. Alors, on fait toutes sortes de sciences qui est liée aux pêcheurs vraiment. Et par la suite, on a eu l'idée et le projet du Centre Omarus qui a été testé avec plusieurs petits projets, qui est vraiment la vitrine de la science et tout ça, et des pêcheurs de la pêche, de tout ce qu'on récolte comme connaissance avec nos pêcheurs. Alors, la mission du Centre, c'est vraiment d'expliquer au grand public la pêche, la science du homard, son cycle de vie et aussi de l'écosystème marin. Et aussi de faire quand même de la science parce qu'on a aussi des laboratoires.
Quelles sont les principales activités puis aussi les services qui sont offerts par le Centre aux visiteurs et aux pêcheurs?
Alors, je vais commencer avec nos membres, les pêcheurs. On a nos bureaux, alors eux autres, ils viennent, ils peuvent venir faire des rencontres et tout ça. Ils peuvent venir faire aussi visiter. Nos pêcheurs adorent venir nous rendre visite, puis même ils en apprennent plein dans nos laboratoires ainsi que dans nos installations plus interprétation. Le grand public, ce qui est excellent, c'est maintenant, on a un beau nouveau centre que ça fait un peu plus d'un an qui existe. Qui explique le cycle de vie du homard et son habitat, qui est par ici le détroit du Northumberland. Et là, les gens ont droit à une belle visite guidée qui est très personnalisée selon les gens qui sont dans le groupe, d'une vingtaine de minutes pour apprendre un petit peu sur c'est quoi le homard. Ensuite, ils ont de l'autre côté vraiment un bassin tactile où on peut toucher, on peut prendre des animaux marins qui viennent vraiment juste d'à côté. Il y a des aquariums, il y a toutes sortes d'activités qu'ils peuvent apprendre sur le monde marin, vraiment.
Madame Cousineau, il faut que les gens comprennent que le Centre Omarus, oui, c'est un centre d'interprétation sur le homard et tout ça, mais l'idée de base derrière Omarus, et moi, c'est ce qui m'a fasciné là, dans tout ça, c'est que c'est une écloserie de bébé homard, c'est-à-dire que l'exercice dont on parlait tantôt de préservation de la ressource, c'est de faire, à toute fin utile, éclore des bébés homards. C'est un peu ça la mission d'Omarus, n'est-ce pas?
Le début d'Omarus, c'était ça. Oui, notre premier projet était vraiment une écloserie. Alors, Omarus a vu le jour suite à un voyage de plusieurs pêcheurs de l'Union des pêcheurs des Maritimes qui ont fait une visite au Maine parce qu'ils avaient entendu parler d'une écloserie qu'il y a des gens qui étaient en train d'élever des petits homards puis des remettre à l'eau. Dans ce temps-là, au Canada, la pêche, il y avait comme un déclin dans la pêche. Alors, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Alors, ils ont fait cette visite-là, ils ont vu, ils sont revenus au Nouveau-Brunswick puis ils ont dit, on veut faire ça. On veut faire ça ici. Alors, avec des chercheurs, des biologistes, ils se sont mis à l'œuvre et on a développé une écloserie à Chipagan qui existe encore depuis 2002. Et on a relâché à date au-delà de 8 millions petits homards à l'eau. Et c'est vraiment un projet pour et par les pêcheurs. Je veux vraiment dire ça, là, que c'est... On fait d'autres choses à Omarus, on fait d'autres sciences, mais ça a été notre premier projet qui existe encore, là, puis on parle de... Ça fait plus de 20 ans.
Comment ça se déroule, le processus d'éclosion des petits bébés homards, et comment que les visiteurs peuvent participer à cette expérience-là qui est vraiment unique?
Oui. Alors, le programme, la majorité du temps, le programme, c'est avec les pêcheurs. Alors, on a quelques permis qui sont émis à certains pêcheurs. Et eux autres, ils ont le droit de pêcher des femelles œuvées, des femelles avec des œufs. Normalement, quand un pêcheur pêche ça, il la remet à l'eau pour qu'elle puisse faire son travail et contribuer à la population. Avec l'écloserie, on amène des femelles à l'écloserie qui ont des œufs. Ensuite, on les met dans des bassins. Elles sont, c'est un peu comme un spa avec de l'eau assez de l'eau froide. Et mais quand qu'on voit que les œufs sont bientôt prêts à éclore, ça c'est avec la coloration et tout, on voit que les petites larves à l'intérieur immatures. On élève l'eau à 20 degrés, autour de 20 degrés Celsius. Puis ça accélère vraiment le processus quand on veut vraiment qu'elle puisse éclore. Et là, les petites larves commencent à sortir. À ce moment-là, on va prendre ces petites larves-là, qu'on appelle des larves de stade 1. On va les mettre dans des bassins séparés avec beaucoup de bulage. Elles vont se faire brasser, pas trop, juste assez pour pas qu'elles s'agrippent entre elles parce que malheureusement, il y a beaucoup de cannibalisme. Et elles vont être bien nourries, c'est de la bonne eau, la température est juste parfaite pour qu'elles grandissent très rapidement pour qu'on puisse les retourner à l'eau le plus rapidement possible.
Ouais. Puis l'idée là-dedans, Madame Cousineau, c'est que avec ces opérations-là que vous faites d'écloserie justement des bébés homards ou enfin des larves de homards, c'est qu'on réussit à atteindre un bien meilleur taux de reproduction, si je peux dire, ou enfin de préserver la ressource beaucoup mieux que s'il n'y avait pas cette intervention-là qui était faite, là, je présume.
Oui, il y a un meilleur taux de survie. Alors dans la nature, puis la nature quand même bien faite, on a un taux de survie de moins de 1% chance de survie de l'œuf jusqu'à un petite larve qui va se cacher dans le fond.
Oui.
Alors ça, c'est pas beaucoup, mais c'est ce que ça prend normalement si on n'ajoute pas l'humain dans l'équation. Oui. Maintenant, si on ajoute l'humain dans l'équation, on a la pêche, puis les larves, elles passent 6 à 8 semaines dans la colonne d'eau à se faire manger par des poissons et tout. Ça pourrait avoir un effet sur la population. Alors là, les pêcheurs, justement, eux autres, ils vont avoir cette partie-là du cycle de vie du homard dans des conditions protégées et il y a un meilleur taux de survie, justement, parce qu'il n'y a pas tous les prédateurs qui vont les manger. Et ils vont les relâcher à un âge où ils vont vraiment dans le fond de l'eau puis se cacher. Et ça veut dire que ça augmente la chance de survie à 40%.
Petite question comme ça, ça mange quoi un homard?
On parle de l'adulte ou on parle de la larve? Parce que ça a quand même deux phases de vie. Une phase qui est dans la colonne d'eau, là, que ça, un peu comme un poisson, là, ça se promène dans l'eau, ça nage. Et après ça, on a la phase de vie qui est benthique, qui est vraiment au fond de l'eau. Alors, ça mange pas la même chose.
Ah, OK. Mais ça mange quoi un bébé? Vous leur donnez quoi, les petits bébés?
Les petits bébés homards, ils mangent des artémies qui sont des petites crevettes, on appelle ça des brine shrimp, des petites crevettes qui font partie du plancton, puis eux autres mangent ça. C'est super, ils mangent bien, ils ont une bonne diète. Après ça, ça grandit vite. Une fois que c'est dans l'eau, au fond de l'eau, au stade 4, là, qui est vraiment des mini homards qui sont adorables, là, ça mange... n'importe quoi que ça peut mettre sa petite pince dessus. Alors, des petites miettes de reste d'un plus gros homard qui est pas très, très loin, ça va vraiment utiliser. C'est opportuniste, alors. Ça mange n'importe quoi.
Madame Cousineau, en conclusion, le temps file, là, mais je veux dire, ça se fait régulièrement, là, vos activités, là. C'est pas quelque chose qui arrive de façon, disons, sporadique, là. Il y a encore récemment, il y a 35 000 larves de homard qui ont été relâchées il y a pas tellement longtemps. Donc, vous faites ça sur une base quand même, somme toute, assez régulière, là.
Pendant l'été, oui. Alors, on suit quand même le cycle de reproduction d'un homard. Alors, pendant l'été, c'est le temps où on a des larves et pendant l'hiver, l'automne, l'hiver et début de printemps, alors, sont au fond de l'eau, les femelles ont des œufs, mais elles sont pas prêtes encore à pêcher. Puis l'écloserie recommence vers le mois de juin.
OK.
Et on invite le public. Oh, pardon.
Non, mais c'est ce que j'allais dire, là. C'est ça qui est intéressant. Nous autres, on est allés cet été avec la famille au Centre Homarus, puis le public peut même participer dans une certaine mesure. Parce qu'on le fait, nous autres.
Oui.
On peut adopter des bébés homards.
Exact. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, on invite maintenant le public, la communauté aussi, de participer à ça. Ça, c'est très symbolique, mais quand même, oui. Ça fait une sensibilisation. Alors, ils peuvent participer. Ils adoptent un bébé homard, ils le nomment, et nous, on informe le public quand leur homard de tel numéro à tel numéro a été relâché à tel endroit, à telle date. Et ils peuvent même, au moins une fois par année, cette année, ça a été le 12 août, si je me trompe pas, qu'on a invité des gens du public à aller sur le bateau pour relâcher des bébés aux morts.
Ah oui?
Non, c'est, ouais. Non. Ah, c'est vraiment cool. Et on peut suivre aussi les activités ouais. du Centre Omarus sur Facebook où il y a plein de choses là, qui sont étalées devant le public, si on peut dire. Là.
Oui, oui, on garde le public le plus informé possible. Il y a notre site web aussi. Et gênez-vous pas de nous appeler si vous avez des questions aussi.
Ah ben c'est vraiment très bien, franchement. Elle est directrice adjointe du Centre Omarus à Shediac, Madame Marie Scousinou, qui nous expliquait un petit peu le fonctionnement de ce centre-là, centre d'interprétation, mais aussi cette écloserie de bébé homard. Madame Scousinou, merci beaucoup, puis bonne continuité.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est un sujet qui va peut-être surprendre, j'oserais même dire déstabiliser peut-être certains de nos auditeurs.
Possiblement, oui.
Ouais, parce que il y en a peut-être certains d'entre vous qui allaient dire « Wow, OK, je savais pas que ça existait. »
Effectivement,
oui. Il y avait moyen de remplacer certains trucs que j'utilise déjà pour lesquels je paie souvent très cher.
Oui.
Il y avait moyen de faire quelque chose.
Et il existe des alternatives. On en a glissé un petit mot au début de l'émission, là, mais effectivement, moi, ça fait depuis les années 90 que je travaille avec du logiciel libre.
Ah, voilà.
Et puis, honnêtement, encore aujourd'hui, j'ai encore toujours un ordinateur qui va tourner sous Linux. J'aime juste ça.
OK. Et c'est de ça, justement, dont on va parler aujourd'hui avec un monsieur qui s'appelle Mathieu Gauthier-Pilote. Il est le président de Facile. C'est une organisation qui se consacre, justement, à l'informatique libre. Et on l'a avec nous au bout du fil. Monsieur Gauthier-Pilote, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gauthier-Pilote, d'abord, la première question. Moi, j'ai présenté un petit peu de façon très succincte votre organisation. Qu'est-ce que c'est, au juste, Facile?
Oui, Facile, c'est un organisme sans but lucratif qui se consacre à la défense et à la promotion du logiciel libre au Québec.
C'est quoi la différence qu'il y a entre l'informatique qu'on va dire libre et l'informatique qu'on va dire propriétaire?
Il est question des licences, ou si vous voulez, des petits caractères écrits là qu'on n'a jamais vraiment le temps de lire et de comprendre.
C'est ça.
Les licences des logiciels qui ont un propriétaire, donc ça vient de l'anglais proprietary software, contiennent une liste d'interdits et une concession restreinte et révocable de certains droits d'utilisation. C'est le cas de, par exemple, Windows sur votre ordinateur, macOS sur votre ordinateur Apple, même chose pour les appareils mobiles. A contrario, les licences des logiciels libres qui ont des auteurs sans avoir de propriétaire vise à garantir la liberté d'utiliser, de modifier, de partager et de faire évoluer un programme par ses utilisateurs et ses utilisatrices. C'est ça, en gros, la différence. C'est ce qui est écrit dans les licences.
Pourquoi qu'on décide de se tourner vers l'informatique libre? Quels sont les principaux avantages?
Le logiciel libre est d'abord une réponse à un problème d'éthique. Le logiciel non libre qui domine l'industrie informatique est source d'un important déséquilibre de pouvoir entre d'un côté quelques grands développeurs qui possèdent et contrôlent et de l'autre des milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices à qui on veut bien concéder un droit d'utilisation restreint et révocable s'ils renoncent aux libertés essentielles à la maîtrise de leur propre vie numérique. Ça crée un système de relations défavorables au grand nombre. Les utilisateurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont littéralement dans l'incapacité de savoir ce que font vraiment les logiciels exécutés sur leurs propres appareils numériques. La thèse centrale du mouvement pour le logiciel libre est que dans la société numérique, le domaine de liberté protégé par les licences de logiciels libres est essentiel à la conservation de la liberté tout court. Dit autrement, nos libertés et nos droits fondamentaux, le droit à la vie privée, la liberté d'expression, de communication, etc., tous les fondements de la démocratie sont en péril. Le logiciel libre est une condition nécessaire, mais insuffisante, à la préservation de la liberté au 21e siècle. Alors, il y a d'autres aspects. Ça, c'est l'aspect, disons, central. C'est ce qui fait que souvent, les gens, ils se passionnent pour le logiciel libre, ils sont très motivés. Oui. Ils peulent embrasser la cause. Il y a d'autres. Il y a notamment la question économique, qui n'est pas secondaire, qui est aussi importante. Alors, lorsque les utilisateurs et utilisatrices de logiciel libre participent à un vaste mouvement international en faveur de la création, du développement et de la protection des biens communs numériques, qui apporte beaucoup de réponses aux problèmes des modèles économiques privilégiés par les géants du numérique.
Si je pouvais me faire l'avocat du diable, deux petites secondes, je vous dirais, oui, mais si je vais vers l'informatique libre, ben j'aurai pas de soutien.
Oui, alors c'est une bonne remarque. Alors la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, en 2023, il y a des entreprises commerciales établies qui offrent le logiciel libre. Ça fait partie de ce qu'ils offrent. Par exemple, parmi les plus grands constructeurs d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, les Dell, les Lenovo, etc., on a des modèles vendus avec, par exemple, c'est très souvent Ubuntu, qui est une des principales distributions de GNU Linux assez populaire auprès du grand public. Il y a aussi Fedora. Donc aujourd'hui, c'est possible d'aller vers une utilisation du logiciel libre qui se fait pas tout seul dans son coin, avec abandonné à son sort, avec ses propres compétences techniques. On peut vraiment s'appuyer sur des entreprises de soutien. Et là, je parle de l'utilisateur final, parce qu'en entreprise, ça fait très longtemps qu'il y a plein d'entreprises spécialisées dans le logiciel libre qui offrent le soutien technique, le développement sur mesure, etc.
C'est ça. Et vous l'avez dit, de toute façon, Monsieur Gauthier-Pilote, tout à l'heure, les gens qui sont derrière, ou enfin qui soutiennent de façon générale le logiciel libre ou l'informatique libre, ce sont souvent des gens qui sont très enthousiastes, et il y a souvent une très grande communauté autour des logiciels, par exemple, auprès desquels on peut se tourner pour avoir du support ou pis-aller. Oui. Tu sais, on utilise, nous autres, par exemple, ici en studio, Audacity, qui est un bel exemple, je pense, de logiciel libre pour la production, la création sociale. Mais quand on a des problèmes, il y a un paquet de ressources en ligne là, pour avoir du soutien.
Plein de forums, oui.
Oui, il y a une culture d'entraide qui est quand même assez forte.
C'est ça.
On peut souvent aller très loin, tout simplement, en allant visiter les forums des utilisateurs de tel ou tel logiciel libre. Il faut quand même mentionner un détail, c'est quand même un peu moins vrai si on ne se débrouille pas en anglais. Donc, le français,
c'est
dans beaucoup de cas, c'est possible. C'est pas impossible, mais disons que dès qu'on rentre dans certains logiciels spécialisés, mais bon, ça, c'est la mondialisation et le fait que l'industrie informatique ait démarré aux États-Unis, il y a une domination de l'anglais.
Ouais, vous parlez de liberté là, depuis tout à l'heure. J'imagine qu'on n'est pas libre de nécessairement tout faire, ou enfin, il doit y avoir des types de licences quand même dans le domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là, celles qui sont, disons, les plus courantes, sans qu'on aille dans le détail nécessairement là?
Alors, effectivement, il y a une seule définition formelle du logiciel libre. Mais il y a, disons, deux grandes catégories de licences libres. Il y a une première catégorie, c'est la catégorie qui contient les licences qui protègent plus ou moins fortement la communauté des utilisateurs et des utilisatrices contre la réappropriation des versions modifiées d'un logiciel libre. Et l'autre catégorie, c'est la catégorie des licences qui ne protègent pas vraiment contre la réappropriation des versions modifiées. Donc, pour les nommer, les licences qui vont jusqu'à protéger contre les réappropriations des versions modifiées, donc des versions futures du logiciel, il y a la GPL, la General Public License, il y a la Mozilla Public License, et après, tu as les autres qui sont, on appelle ça des licences sans réciprocité, donc on n'exige pas la réciprocité des gens qui vont aller faire des modifications d'un logiciel et les publier. Alors ça, c'est la licence MIT, la licence BSD, Apache, etc. Et puis, sur ce point-là, c'est un détail important, dans le mouvement du logiciel libre, il y a deux grands organismes internationaux qui sont au centre du mouvement. Il y a la Free Software Foundation, et en face, un peu concurrent et en désaccord sur plusieurs points, il y a l'Open Source Initiative. Sur la question des licences, ces deux organismes-là disent à peu près la même chose. Ils ont chacun des listes de licences reconnues comme libres et elles sont presque identiques.
OK. Donc, en résumé, là, si on voulait faire bref, c'est qu'il y en a une, tu peux l'utiliser, mais mets pas trop les mains dans le moteur, là, comme on dit. Et l'autre, ben, tu pourrais, à toute fin utile, le tweaker comme ça tente. Là, c'est un peu ça, là, en résumé.
Oui. Ben, si par exemple, si moi, je fais des modifications logicielles et que j'ai pas l'intention de le partager avec qui que ce soit, donc j'ai pas l'intention de republier, okay. Toutes les licences de logiciels libres permettent ça, il n'y a aucun problème. Okay. C'est à partir du moment où on pose le geste de republier. Donc là, on est l'auteur de modification. Et à partir de là, les licences qui sont à réciprocité disent, ben en fait, quand tu fais ça, on te donne, toi, des libertés de faire ça, mais pas la liberté de trahir toute la communauté. Donc ça, c'est les licences GPL, MPL. Okay. Et les licences sans réciprocité, on dit, en fait, t'es tellement libre que tu pourrais aller jusqu'à mettre ton copyright dessus, okay. Et puis on présume que tu as des bonnes raisons de faire ça et on te laisse tranquille.
OK. Quels sont les grands défis auxquels l'informatique libre est confrontée de nos jours?
L'adoption par le public est compliquée par le fait que la plupart des appareils numériques sont vendus avec des systèmes d'exploitation non libres déjà installés, Windows, macOS, Android, etc. Mm-hmm. En plus, ils sont préconfigurés pour utiliser les services en ligne des GAFAM, Office 365, Gmail, ce que vous voulez. Il faut être honnête, la migration d'un système à un autre, c'est malheureusement un peu technique pour le commun des mortels. Comme beaucoup de gens le savent, même migrer de Windows 10 à Windows 11, ça peut s'avérer très technique. Alors, évidemment, quand on passe de Windows à macOS ou de macOS à GNU Linux, voilà. Bon. Alors, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que pour répondre aux besoins d'expertise technique, les libristes organisent à l'occasion ce qu'on appelle des festivals d'installation où il y a des bénévoles viennent aider les gens à quitter Microsoft et Apple sereinement. Après, il y a l'État. Bon, on veut que l'État appuie le mouvement, favorise l'adoption des logiciels libres. Là, un des principaux défis, c'est la mise en cohérence des politiques, selon moi. C'est-à-dire qu'on veut favoriser l'adoption, il faut changer un ensemble de politiques et de programmes parce qu'on doit toucher, juste par exemple pour l'administration publique, le recrutement, la formation, les appels d'offres, la gestion du budget. En plus de ça, il faut que ces politiques-là et programmes évoluent en harmonie avec d'autres politiques dans différents ministères. Il faut donc que ça devienne une priorité gouvernementale. Autrement, ça avance pas beaucoup.
En conclusion, Monsieur Gauthier-Pilote, là, si vous deviez donner ne serait-ce qu'un exemple, ou mettons quelques exemples, on a encore quelques secondes, là, les plus éloquents, là, les plus belles réussites que vous pointeriez du doigt dans le domaine de l'informatique libre et que peut-être ça va sonner des cloches dans la tête des gens, ce serait quoi?
Il y a des développements récents qui laissent croire que la situation est en train de changer, donc que ce soit de plus en plus adopté par le public en général. Premièrement, il y a aujourd'hui des téléphones vendus avec des systèmes d'exploitation libre. Il y a le PinePhone, vendu par l'entreprise Pine64. Il y a le LibreM5, vendu par Purism. Et il y a quand même beaucoup de possibilités d'installer autre chose sur son téléphone Android. Et si on est trop habitué à son téléphone Android, on peut, dans un téléphone Android, installer le magasin d'applications libre F-Droid, qui est alternatif à Google Play Store. Mm-hmm. Je l'ai mentionné tantôt, Lenovo, Dell, HP offrent littéralement des modèles prêts avec Ubuntu ou Fedora préinstallés. Ensuite, il y a d'autres dimensions, avec les remous autour de Twitter qui devient X. Il y a de nombreuses personnes qui sont venues trouver refuge dans l'univers décentralisé et fédéré de Mastodon, un logiciel libre. Oui. Alors nous, à Facile, on a recueilli des centaines de réfugiés sur notre instance Jazette Facile. Donc, petit à petit, les solutions de remplacement aux services en ligne des GAFAM, comme nos services faciles, se font connaître.
Ah, c'est vraiment intéressant, franchement, là, pour le commun des mortels qui cherche, comme vous le disiez, peut-être un refuge à ce qui se passe dans l'univers des GAFAM, là. Et quand on parle des GAFAM, je pense que les gens commencent à les connaître, là, les Google, Apple, Facebook et compagnie. Ben, de savoir qu'il y a des portes de sortie comme celle-là, ma foi, c'est très intéressant.
Hein? Et l'image est de plus en plus positive aussi pour l'informatique libre.
Incluant des journalistes qui sont pas contents de Facebook et des choses comme ça.
Oui. Voilà, voilà, c'est bien dit.
Oui, bien dit.
Mathieu Gauthier-Pilote, il est le président d'un organisme qui s'appelle Facile, donc qui vise à la démocratisation, à l'appropriation de l'informatique libre par le commun des mortels, par vous, mesdames et messieurs qui nous écoutez actuellement. Monsieur Gauthier-Pilote, merci beaucoup pour votre temps.
Ça fait plaisir.
Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
Mon cher ami, je sais que tu as étudié tous les sujets possibles, sauf probablement un.
Le sport professionnel.
Non.
Non?
Même pas.
Lequel? Vas-y.
OK. Je vais te donner un indice.
OK.
Madame Minou.
L'astrologie. Pas vrai.
Oui.
Ah, ouais, OK, un test ou un quiz sur l'astrologie.
J'espère que t'es prêt.
Wow! Okay. Moi qui n'ai pas lu ma carte du ciel,
ouais, c'est ça.
Mm-hmm. J'ai-tu déjà lu une carte du ciel?
Ouais, c'est ça. Si oui,
Mais
t'es un peu déçu, là.
Mais à peine une minute, ouais. Je te compte quelque chose très, très court.
Oui.
À l'époque, je travaillais à Radio Énergie,
okay.
En Abitibi.
Uh-huh.
J'étais animateur radio. Puis on attendait les BBM qui étaient censés arriver.
Oui.
J'ai eu de très bons BBM, soit dit en passant. Mais comme la veille, sur un coup de tête comme ça,
uh-huh.
J'ai téléphoné dans une ligne d'astrologie pour me faire dire si j'allais avoir des bons résultats le lendemain. Juste en farce, juste en joke ça. Puis écoute, la personne, je me rappelle pas si c'était un gars ou c'était une femme, m'a dit évidemment ce que je voulais entendre,
ben oui.
Bien sûr, là, mais
ben oui.
C'est quand même drôle là, d'avoir essayé ça une fois dans ma vie.
Fait que t'as déjà parlé de Madame Minou.
Oui,
okay.
Bref, c'est ça, c'est okay. Un petit peu ça. Ouais, Monsieur Minou, je sais pas.
Ouais, Monsieur Minou,
je me rappelle
ouais.
Pas.
Bon, t'es-tu prêt?
Oui, je suis prêt, okay. Comme un seul homme.
On va commencer facile. Là.
Oui.
Combien y a-t-il de signes du zodiaque?
Ben, il doit en avoir 12.
Oui, OK, c'est correct. J'ai dit que je commençais facile.
Ben oui.
Quel signe du zodiaque est associé au lion?
Quel signe du zodiaque est associé au lion?
Oui.
Tu veux dire par là, ben c'est un lion, c'est...
Oh, mais tous les signes ont des signes associés.
Ah, je sais pas.
Mais là...
Ben non, mais tu me fais une affaire sur...
T'as parlé à Madame Minou.
L'astrologie. Ben, le lion, c'est un lion.
C'est un lion.
C'est un lion.
C'est un lion. Mais c'était une question un peu piège.
Ah oui, que je veux dire... Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. Comme par exemple, le cancer, c'est un... on va dire, c'est une espèce de crabe, là.
C'est ça.
Ah, OK, c'est ça.
Le lion, ben...
Le lion, c'est un lion.
C'est un lion.
Je suis un lion. J'ai pas la crinière d'un lion, mais...
Non.
Non.
Non, honnêtement, là, non. Quel est l'élément associé au signe du bélier? Je vais te donner un choix de réponse.
OK.
La terre, eau,
ah, okay.
Air ou feu?
Le bélier, c'est la terre, me semble.
C'est le feu,
c'est le feu.
Ah, oui, c'est okay. Le feu. Quel signe zodiaque est associé à la balance? Je vais te donner des choix de réponse. Le cancer, verseau, scorpion ou la balance?
Ben, la balance.
C'est ça.
Ben non, mais t'essayais de me prendre avec des affaires comme ça, OK?
Ben oui.
OK.
Quel est le signe astrologique du zodiaque qui vient après les gémeaux?
Balance. C'est ça?
Non.
Non?
Non, c'est des cancers.
Ah, OK.
T'étais pas loin, là. Tu sais, t'avais juste un 4 mois de décalage.
Ouais, ouais. Non, mais c'est correct.
T'étais pas loin, là.
Je vais t'avouer une affaire, c'est que je prends un gros guess sur ben des affaires là-dedans.
C'est pour ça que je t'avais préparé.
Là, il doit y avoir des gens à la maison chez eux qui, eux autres, connaissent
ah, l'astrologie. Ah oui, c'est ça. Eux autres sont là, puis ils répondent.
Ben, pas bon, ça.
Ah oui, c'est ça.
Je m'excuse. Non.
Quelle planète gouverne le signe du scorpion? Choix de réponse. Mars, Vénus, Pluton ou Jupiter?
Jupiter, j'imagine.
Pluton. T'étais pas loin. À quel élément le signe du taureau est-il associé? Le taureau. Feu, eau, terre, air.
Feu.
Non, c'est la terre.
C'est la terre, OK.
Oui. Quelle planète gouverne le signe du Verseau? Saturne, Uranus, Neptune ou Jupiter?
T'es encore là, je prends un guess. Neptune, j'imagine.
C'est Uranus.
Ben non, ben c'est
ça. Correct,
tu voulais m'attraper, je veux dire.
Ben oui.
J'ai d'assez bonnes connaissances générales.
Ben non, mais je savais.
J'avoue que si j'allais à un quiz à quelque part à la télévision, je serais probablement le cancre de service
oui.
Qui se ferait planter avec une affaire comme ça.
Ben c'est sûr. Mais non, mais c'est parce que je cherchais un quiz où je pourrais...
Vraiment,
où je savais... que c'est pas quelque chose que tu connaissais vraiment.
Et voilà.
Ben voilà. OK, il me reste deux petites questions, là. Oui. Quel signe du zodiaque est le premier de l'année astrologique? Capricorne,
oui.
Bélier, Verseau ou Poisson?
J'ai dit Capricorne.
C'est Bélier.
C'est Bélier?
Oui, ah. Oui. Ben, c'est l'année que... astrologique, j'ai ah, bien
okay.
dit.
OK, ben oui. Ah oui, c'est vrai.
Ah,
parce qu'à un moment, et dans le mois de janvier, c'est un Capricorne. Alors, c'est pour ça que je me disais ça.
Ah, OK, OK.
Ah, OK.
Et finalement, quel est l'élément associé au signe des poissons?
Un poisson.
Je vais te donner,
ah, non, OK.
Je vais te donner un choix de réponse. L'air, l'eau, la terre ou le feu?
Je vais dire, attends un peu, là.
Non, non, mais pense-y comme il faut,
je
là.
Je réfléchis.
Oui, pense-y comme il faut.
Je vais prendre une chance, là. Okay. Gros ouais. guess pour ouais. dire l'eau.
T'étais pas loin, mais c'est ça.
Ben, merci. Merci de m'avoir au moins sauvé un petit peu mais... la face.
Non, non, mais t'en as eu une couple, là. Je veux dire, c'était quand même pas si mal.
Non,
t'as eu trois, quatre bonnes réponses.
J'ai eu trois, quatre bonnes réponses.
Ouais, t'sais, sur 12, là, c'est pas pire, là.
T'avais 12, hein?
Ouais.
12, qu'est-ce que ça? Ben, la première, c'était assez facile, là, mais je veux dire... Wow!
Ah, oui. La semaine prochaine, Simon sera animateur de quiz.
Oui!
Contenir des infos.
Il nous reste oui. encore 6-7 minutes à peu près pour oui. vous parler des meilleurs endroits
pour
placer votre routeur Wi-Fi.
Ah!
Ça, c'est important.
Ça, c'est important.
Ouais.
Combien de fois on entend les gens qui disent oh, « mais je suis dans ma chambre, il n'y a ouais. pas de signal. »
Mais ça, c'est crucial hein,
oui.
de placer son routeur Wi-Fi au bon endroit. Vous aurez beau avoir la meilleure connexion Internet mm-hmm. si le routeur n'est pas placé à une bonne place.
Oui.
Ça risque de poser problème. Alors, le positionnement optimal, on a oui. tendance à installer notre routeur sans fil tout près du modem. C'est assez normal.
Oui.
Parce qu'on se dit en dedans de nous-mêmes, ben, c'est assez proche, là. C'est le fil n'a pas besoin d'être bien, bien long entre le routeur et entre le modem. Oui. Mais idéalement, pour maintenir une bonne connexion et une vitesse optimale, c'est plutôt sage de placer votre routeur dans une zone centrale de votre foyer ou encore de votre entreprise. Parce que idéalement, vous allez couvrir de façon assez optimale l'ensemble
ouais.
du building, mm-hmm. entre guillemets. Alors, c'est comme ça que vous allez avoir une meilleure connexion et une vitesse, somme toute, optimale. Donc, oui, OK, je comprends que vous voulez le placer pas trop loin du modem parce mm-hmm. que vous allez dire, ben, ça va assez de pair, là, d'avoir un modem. Faut que le quand on parle de routeur, le sans fil Wi-Fi, là, c'est l'affaire qui fait que vous avez pas besoin d'avoir un câble entre votre ordinateur puis le modem.
C'est ça. Et souvent, Simon, on le place proche de la télévision.
Et ça, c'est pas une bonne chose.
Mais c'est, ben, d'accord, mais c'est souvent là que les installateurs vont le mettre.
Ben oui, c'est ça.
Oui.
Les signaux Wi-Fi se propagent plus facilement dans des espaces ouverts, là, comme on vous l'a dit. Ouais. Comme on vous l'a dit, donc placez-le de façon générale assez, comment dirais ça, assez centrale, ça c'est sûr. Et la meilleure place, il y en a d'autres qui disent que le meilleur moyen de créer des problèmes avec son routeur, c'est comme tu disais tantôt, c'est de ouais. le placer près des appareils électroniques. Ça, c'est que si tu, ouais.
Parce qu'ils mettent toutes des fréquences.
Ils ont toutes, c'est ça. Ils ont toutes ouais. des, alors, si vous voulez minimiser les interférences, c'est placer votre routeur en plus dans une position élevée. Alors, on va éviter ainsi la proximité des okay. appareils comme le téléphone sans fil,
ouais.
comme justement le téléviseur, les trucs du genre. Donc, une des bonnes places où on peut le placer, souvent, ouais. là, c'est au-dessus d'une armoire, là, ou au-dessus d'un.
Ah, oui, oui. Ben oui.
Bibliothèque.
Ouais.
Voilà le mot que je cherchais. Souvent, les comment je rappelle ça, je suis en train de perdre mes idées, excusez, le téléphone a sonné dans ma poche. Pendant que j'étais en train de faire l'intervention, vous l'avez pas entendu?
Non.
Parce qu'il était sur le mode vibration.
Ah,
et il y a quelqu'un okay. qui est en train de m'appeler.
Okay.
Et ça m'a juste un peu TDAH sur les bords, mais sans l'hyperactivité.
Oui.
Et ça prend pas grand-chose pour me déconcentrer. Et pendant que j'étais en train de parler,
oui.
ça sonnait,
oui.
ça sonnait. Puis là, j'avais de la misère à me concentrer. Tu me voyais un petit peu, hein?
Mais je me souviens d'avoir fait une présentation. Là, on voit du coq à l'âne, mais je me souviens d'une présentation à un moment donné. Puis j'avais mon téléphone dans ma poche. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a appelé.
Oui.
J'en ai perdu le fil de ma présentation ouais. complètement.
C'est clair.
Ben oui.
Là, tu commences à te demander, tu sais qui m'appelle?
Oui, c'est ça.
Je suis en train de faire une
ben oui, c'est parce que là, ta tête, elle commence à virer, mais elle vire pas à bonne place.
Je rappellerai.
Oui, c'est ça.
Alors, s'il y a des trous, Tu sais, il y a des trous derrière, souvent, les routeurs. Tu as déjà vu, il y a des espèces de trous de fixation. Pas pour rien, hein. C'est pour qu'on les fixe à quelque part, comme au mur ou encore même au plafond. Quand vous allez dans les hôtels, par exemple, avez-vous déjà remarqué que les routeurs sont souvent placés quelque part d'un couloir, là, tu sais, pas loin du plafond, à une bonne hauteur? Parce que l'effet des ondes Wi-Fi, c'est comme une espèce de parapluie. C'est ça descend. Donc, vous allez arroser de cette façon-là, entre guillemets, bien sûr, tous les environs avec votre signal Wi-Fi. Encore en train de passer au téléphone. évitez évidemment de le cacher dans une armoire.
Oui, ça, c'est non, là, c'est pas une bonne idée.
C'est pas la bonne chose. Autre chose également, c'est essentiel de ne pas installer le routeur tout près des murs de briques et de béton.
Oui.
Parce qu'évidemment, ça va couper les ondes. Hein. Ce sont des matériaux qui absorbent davantage les ondes que les poutres en bois ou encore les cloisons sèches qui ont tendance à davantage laisser passer les ondes.
Parce que ça passe, mais... il reste pas grand-chose une fois rendu de l'autre bord.
Eh ben c'est ça.
Quand ça part,
oui, il y a
Tu sais, un mur de béton là, ça va passer à travers, mais ce qui reste l'autre bord, c'est que
c'est un peu résiduel.
C'est pas bien fort.
Vous voulez pas que les voisins aient trop accès à votre Wi-Fi ou en fait que le signal soit pas trop fort. Mettez pas ça trop près des fenêtres. Mm-hmm. L'autre avantage de pas le placer trop près des fenêtres, c'est que quand il est exposé au soleil, qu'est-ce qui va arriver?
Ah, ben oui.
Il va chauffer.
Un petit peu. Oui.
Et il y a des objets qui nuisent aux ondes Wi-Fi. L'eau. Et le métal, par exemple, il y a des gens, des fois, qui vont placer ça pas loin d'un aquarium. Ben, l'eau nuit à la circulation des ondes Wi-Fi.
Ah oui?
Ah oui, absolument. Alors, la meilleure chose, éloigne ça d'un aquarium, éloigne ça d'un réservoir à eau chaude, éloigne, tu sais, tout ce qui est de l'eau, là, c'est pas une bonne place pour mettre un routeur.
Tu veux dire que l'eau va absorber les ondes?
Ouais, ça va. Ça va couper les ondes. Admettons que tu mets ça à côté d'un gros aquarium, là, tu mets ton routeur là, c'est clair que de l'autre côté, tu vas avoir un signal Wi-Fi qui va être altéré.
C'est pour ça que mon poisson rouge, il y a un petit bras dans le front.
Ça peut arriver que ça n'aille pas, non, c'est ça. Okay. Les appareils qui émettent un rayonnement d'ondes électromagnétiques, évidemment, donc placez pas ça dans la cuisine près du réfrigérateur,
micro-ondes,
les trucs du genre, évidemment. Donc, en conclusion, c'est quoi les pires endroits, les trois pires places pour installer son routeur sans fil? Cuisine, parce qu'il y a tellement d'appareils électroniques, d'appareils qui émettent des ondes. Sous-sol, ce qu'on l'a dit tantôt, ça descend. Et en dernier, le grenier. Et tu sais pourquoi? Il y a tellement de fils. Tu sais, il y a des gens qui installent ça. Il y a tellement de fils électriques, il y a tellement d'affaires que là, si tu installes ton routeur dans le grenier, tu vas, à toute fin utile, peut-être pas bloquer complètement les ondes, mais tu vas en tout cas considérablement nuire à ton site.
Ben, s'il n'y avait pas de fil, ça serait une méchante bonne place.
Ça serait pas pire, mais c'est avec toute l'électricité qu'il y a là.
Ouais, c'est ça.
C'est une affaire terrible.
Et si vous avez encore des trous, ben il existe des répéteurs.
Des répéteurs ou des réémetteurs.
Ça coûte pas bien cher.
C'est ça. Branche d'une prise électrique, puis ça va.
C'est ça.
Mon téléphone m'a déconcentré.
On a réussi à passer à travers.
On est finalement arrivé à la fin de l'émission. Je dis ça finalement comme si c'était une délivrance. Mais
c'est
non.
Ça.
On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, mes très chers amis.
Oui, passez une bonne semaine.
Bonne semaine, merci d'avoir été là.